Des témoignages, des invités, une parole rare venue de Gaza. On attend vos questions encore et vos remarques par SMS ou court message vocaux au 079 134 34 70, 079 134 34 70.
La matinale en tout temps sur l'application Play RTS. Infotrafic RTS.
Dans l'agglomération genevoise, la route de Mérin est toujours fermée entre la route de Prébois et l'avenue de Matenia en direction de la France à la suite d'un accident. Une déviation est signalée.
Infotrafic RTS en collaboration avec les CFF et le TCS.
Le temps sera assez ensoleillé et généralement sec aujourd'hui avec un faible risque d'averse le long des versants nord des Alpes. Les températures 11 à 13 degrés actuellement, 21 cet après-midi.
La météo avec VZ, le conseiller financier pour votre retraite et vos placements, vzch.com.
Tout un monde à suivre. Bonjour Eric Guevara Frère.
Bonjour Valérie.
Bonne émission Eric.
Merci, on se retrouvera demain pour cette émission spéciale. À demain. Mais pour l'heure, mardi 27 mai, vous êtes sur RTS Première. Nous aussi, il est 8h01. Et voici le journal. Bonjour Léandre Béret.
Bonjour.
Des propriétaires prétextent des travaux dans les appartements pour expulser les locataires.
But final, augmenter les loyers. L'ASLOCA s'inquiète de cette pratique repérée à Genève, le canton qui n'utilise pas ses outils de lutte de manière optimale. La menace russe venue du ciel grandit au-dessus de l'Ukraine. Moscou produit drones et missiles en masse. Des attaques de plus de 1000 drones pourraient s'abattre sur le pays. Kiev craint de ne pouvoir y répondre. L'îlot suisse évite la houle géopolitique aux entreprises. Les grands groupes helvétiques s'en sortent bien malgré le contexte international grâce à la stabilité économique et politique du pays.
Qu'est-ce qu'on fait du passé de sa famille quand il n'est pas facile à assumer? Notre invité Dimitri Zuffray l'a regardé en face. Il a mené une enquête historique sur le rôle de son grand-père, soldat allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Il nous raconte ça dans Tout un monde après le journal.
Des propriétaires genevois usent d'une nouvelle pratique de résiliation de bail qui inquiète l'ASLOCA. L'association des locataires accuse des propriétaires de prétexter des travaux à faire pour demander le départ des habitants, puis augmenter le loyer de ces logements. Des appartements dans une dizaine d'immeubles seraient concernés à Nouperné.
Ce genre de cas avait fait grand bruit en Suisse alémanique. En décembre dernier, 250 locataires des immeubles Sugus à Zurich ont reçu l'ordre de partir en raison de rénovation. Une pratique qu'on observe désormais dans les cantons de Vaud et Genève, affirme l'ASLOCA. Selon sa juriste, Leïla Grobet, des locations spécifiques sont visées.
Les baux anciens, donc avec des loyers qui sont loin des prix excessifs du marché. Des personnes âgées, il y a des personnes plus jeunes, 60 ans, mais de 80 même à 100 ans. Donc avec des conditions aussi médicales qui sont délicates. On sait pas les nouveaux baux avec des loyers trop chers.
L'association des locataires y voit donc une technique pour expulser les habitants et augmenter les loyers par la suite. Pour elle, l'État de Genève a les moyens d'éviter ce genre d'abus, mais il n'appliquerait pas la loi avec assez de rigueur. Le canton répond qu'il utilise tout ce qui est à sa disposition pour garantir l'accès au logement. Il exige par exemple que les locataires soient informés dans les temps de rénovation à venir, ce qui leur permet de faire recours. Du côté des propriétaires, des régies et la Chambre genevoise immobilière nous affirment ne pas avoir connaissance des cas relatés. Elles estiment que la loi genevoise est la plus restrictive de Suisse, ce qui ne permettrait pas les hausses de loyers telles que dénoncées par l'ASLOCA.
Une réunion publique autour du deal de rue s'est tenue hier soir à Yverdon dans un contexte particulier.
La ville avait convié la population pour trouver des pistes face à la hausse de consommation de crack. Un échange en présence de représentants du gouvernement cantonal et de la police vaudoise. Mais hier aussi, le ministère public vaudois annonçait qu'un homme était décédé dans les locaux de la police municipale lausannoise après une arrestation pour soupçon de trafic de drogue. Dans ce contexte, le volet répressif a été peu abordé hier soir à Yverdon, contrairement au volet de la prévention face à cette actualité. Sylvie Bula, commandante de la police cantonale vaudoise, explique que renforcer le dispositif policier n'est pas la priorité.
Le contexte, il est complexe. Il y a des choses qu'on peut dire publiquement. Il y a des choses qui relèvent du secret professionnel qu'on peut peut-être pas expliquer. Mais il y a un grand travail qui se fait déjà sur le pilier répressif avec une action à différents niveaux. Donc ce volet-là, il est couvert. Maintenant, on doit observer comment la situation évolue sur le terrain et on doit se remettre en question au fur et à mesure pour adapter la manière dont on travaille. Ce qui est important, c'est que la population comprenne que l'ensemble des acteurs concernés par cette problématique travaillent ensemble, même s'il y a peut-être certaines choses qu'on ne peut pas donner dans le détail.
Sylvie Bula avec Thibaut Clémence. Un premier pont entre les deux côtés de la Sarine sur le dossier électronique du patient. L'association CARA, en charge du projet dans la plupart des cantons romands, compte s'allier dès l'année prochaine à deux partenaires alémaniques. L'objectif est notamment de confier l'infrastructure technique non plus à la Poste, mais à une entreprise zurichoise. Un choix que défend Patrice Hoff, secrétaire général de l'association CARA.
CARA aura la chance de pouvoir accroître certaines fonctionnalités qui aujourd'hui font défaut à la plateforme actuelle, notamment une application mobile, notamment un processus d'ouverture plus automatisé qu'aujourd'hui. Là, on fait un premier pas, c'est-à-dire qu'on suit la logique qui est celle de concentrer pour simplifier le service aux utilisatrices et les utilisateurs.
Des propos recueillis par Julien Bangerter. La vieille ville de Jérusalem sous forte tension hier à l'occasion de la journée de Jérusalem. Des milliers de nationalistes israéliens ont défilé pour marquer, comme chaque année, l'occupation par Israël de la partie orientale de la ville. Certains s'en sont pris à des commerçants, des passants, des écoliers palestiniens, mais aussi à des militants israéliens des droits humains et à la police. Le ministre d'extrême droite Itamar Ben-Gvir en a profité pour se rendre sur l'esplanade des mosquées, troisième lieu saint de l'islam situé sur le lieu le plus sacré du judaïsme, le mont du Temple. Une provocation pour les Palestiniens et les pays arabes.
La Russie a sombré le ciel et du même coup les espoirs ukrainiens.
355 drones se sont abattus sur l'Ukraine dans la nuit de dimanche à hier. La Russie concluant par une attaque record, un week-end de frappes massives, notamment sur Kiev. En réaction, l'Europe durcit le ton. L'Allemagne a levé hier les restrictions sur la portée des armes livrées à l'Ukraine. Désormais, Kiev pourra frapper des cibles militaires en territoire russe avec des armes occidentales. Une décision jugée dangereuse par Moscou. Maureen Mercier était à Kiev lors de ces frappes et tout indique qu'elle pourrait se multiplier.
Ces nuits entières déchirées par des explosions de ce type, ces nuits risquent de se multiplier, d'être plus dures encore. La Russie produit désormais plus de missiles et de drones qu'elle n'en utilise. L'information nous vient du Financial Times. The Economist confirme, la production russe augmente au point que des essaims de 1000 drones pourraient devenir réalité. Ces dernières nuits, plus de 300 drones et missiles ont été lâchés sur le pays. La défense antiaérienne est d'ores et déjà à la peine. Ces nuits dernières, moins de la moitié des missiles ont pu être interceptés. Selon les renseignements ukrainiens, la Chine contribue à la production exponentielle de drones russes. En ce début d'année, 80% des composantes électriques critiques des drones russes étaient d'origine chinoise. L'Ukraine produit également de plus en plus d'armes. Un soldat résume, malgré tous nos efforts, comment rivaliser avec la production du géant russe.
Les précisions de Maureen Mercier. L'Assemblée nationale française pourrait adopter en première lecture la création d'un droit à l'aide à mourir. Cette réforme sociétale majeure du second quinquennat d'Emmanuel Macron pourrait passer une étape cruciale en votant deux propositions de loi fin d'après-midi par les députés. L'hémicycle devrait se partager entre d'un côté la gauche et le bloc central favorable au texte et la droite et l'extrême droite qui y sont hostiles. Les entreprises suisses surnagent dans le marasme économique et politique mondial. Dans un contexte difficile, les grands groupes helvétiques ont bien réussi à tirer leur épingle du jeu par rapport aux Européens. Une étude de la société d'audit Ernst & Young publiée hier montre que la stabilité économique et politique de notre pays a joué en sa faveur, Sylvie Belzer.
Dans un contexte difficile, marqué par des turbulences à la fois politiques et économiques, les grands groupes helvétiques ont réussi à dégager des profits importants. Les 20 plus grandes sociétés ont ainsi amélioré leur chiffre d'affaires de plus de 3% en moyenne, alors que les entreprises européennes ont essuyé des reculs de plus de 1%. Parmi celles qui se sont montrées les plus performantes l'an dernier, on peut citer le négociant en matières premières Glencore, le groupe agroalimentaire Veuvezan Nestlé, ou encore les sociétés pharmaceutiques Roche et Novartis, ces trois dernières font tout simplement partie des 100 sociétés les plus rentables du monde. Et même si dans ce classement mondial, la Suisse est loin derrière les États-Unis et l'Asie, elle place tout de même 20 de ces entreprises parmi celles qui ont publié les meilleurs résultats. Ça rejoint une remarquable 11e place portée par une stabilité qui résiste à toute épreuve.
Les Lions de Genève peuvent devenir champions de Suisse de basketball ce soir.
Ils accueillent Fribourg Olympique pour l'acte 4 de la finale, une manche qui s'annonce bouillante, Grégoire Augier.
Vainqueur de la saison régulière, sextuple champion de Suisse en titre, Fribourg Olympique est dos au mur. Mené 2-1, les Fribourgeois n'ont plus le droit à l'erreur dans cette finale. Genève peut donc rêver de soulever le titre national dès ce soir sur son parquet, mais même si proche de la consécration, les Genevois savent qu'ils doivent se méfier de leur adversaire, Noé Anabir, joueur des Lions de Genève.
On sait que le troisième match pour clôturer la série, c'est toujours le plus dur. Voilà, on va tout faire pour le gagner, c'est sûr qu'il faudra rester la tête calme. Parce qu'ils vont venir ici encore plus revanchards qu'aujourd'hui. Mais on célèbre pas aujourd'hui, on n'a rien fait encore. 2-1 dans la série, on célébrera quand on aura fait quelque chose mardi.
Genève bouscule donc le favori Fribourg dans cette finale. Mais comment les Genevois ont-ils réussi à se hisser au niveau de leur adversaire, Noé Anabir?
On a pris un peu de temps cette saison à construire l'équipe. C'est la première année où on joue tous ensemble. C'est vrai qu'on a eu un petit peu des hauts et des bas cette saison. Et je pense que les play-offs, surtout avec Neuchâtel, ils ont beaucoup aidé un petit peu à confirmer notre groupe, comment on est fort et qu'on peut rivaliser avec Fribourg Olympique.
Les Lions de Genève peuvent décrocher le troisième titre de champion de Suisse de leur histoire en cas de succès ce soir contre Fribourg. Sinon, les deux équipes se retrouveront samedi pour un acte décisif dans cette finale des playoffs.
Le match 4 entre Genève et Fribourg à suivre en direct ce soir dès 19h30 sur RTS2 ainsi que dans nos rendez-vous d'information.
Merci Léandre Béret, il est encore 8h10.
Tout un monde, Éric Guevara-Frey.
La libre parole ne peut pas être un danger pour la démocratie.
Qu'en sait-on ? Tant de prévisions ont été démenties.
C'est une possibilité, pas une garantie.
Bonjour ! Les États-Unis s'emportent contre la Russie qui bombarde l'Ukraine plus que jamais. Vu de Moscou, ça pourrait commencer à ressembler à un début de sortie de la spirale infernale. Son grand-père était soldat, un rouage de la machine de guerre nazie. Dimitri Zuffray a regardé en face ce passé familial. Il raconte ses recherches et on publie les résultats dans un livre précis et personnel. Interview. Et aux Pays-Bas, ceux qui veulent connaître les activités de leurs ancêtres pendant la Seconde Guerre mondiale se ruent aux archives nationales qui proposent un nouveau service. Reportage. 3, 2, 1. Il tue beaucoup de gens, je ne sais pas ce qui ne va pas chez lui. Qu'est-ce qui est arrivé à Vladimir Poutine? Ça ne me plaît pas. Donald Trump semble perdre patience avec le président russe, il l'a dit dimanche.
He's killing a lot of people. I don't know what's wrong with him. What the hell happened to him, right? He's killing a lot of people. I'm not happy about that.
Et quelques heures plus tôt, le président américain écrivait sur son réseau social « Vladimir Poutine est devenu complètement fou » au moment où les bombardements russes s'intensifiaient sur l'Ukraine. Ce sont les plus massifs depuis le début du conflit et ce, en dépit des appels au cessez-le-feu. Bonjour Jean-Didier Revoin.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
En direct de Moscou, comment le Kremlin a-t-il pris ces propos, disons, fleuris de Donald Trump ?
Bah alors comme d'habitude, hein, c'est son porte-parole qui s'est chargé d'aplanir les angles avec Washington, on pourrait dire. Dmitri Peskov s'y est exercé, non sans ironie, hein, remerciant les États-Unis et leur président pour leur implication dans le lancement du processus de négociation mi-mai à Istanbul. Il a immédiatement précisé qu'il s'agissait d'un moment très important associé à une charge émotionnelle pour absolument tout le monde. Une façon de dire que Moscou ne prenait pas ombrage des critiques de Donald Trump à l'égard de Vladimir Poutine, tout en soulignant vraisemblablement pour la population russe, que le président américain était peut-être un peu trop enthousiaste sur les perspectives d'un cessez-le-feu ou d'une paix rapide, et par conséquent, un peu émotif aussi.
Les bombardements sur l'Ukraine se sont intensifiés depuis les pourparlers d'Istanbul. Est-ce que ça veut dire que Moscou mène tout le monde en bateau et n'a, à vrai dire, aucune intention de faire la paix ?
Alors tout le monde veut la paix, hein, mais personne ne s'entend sur ces conditions. Les Ukrainiens, on le sait, veulent un cessez-le-feu immédiat de 30 jours au moins, et les Russes préfèrent s'atteler à la résolution de ce qu'ils appellent les causes profondes du conflit, seule façon, selon le Kremlin, de parvenir à une paix durable. Dans l'intervalle, Moscou continue de bombarder l'Ukraine, et le chef de la diplomatie russe a justifié ses attaques de missiles et de drones. Pour Sergueï Lavrov, il s'agit ni plus ni moins d'une réponse aux attaques ukrainiennes qui ont visé le territoire russe depuis le 9 mai. Il a souligné que Kiev avait lancé plus de 700 drones contre des cibles russes, civiles pour la plupart, ce qui a conduit Vladimir Poutine à dénoncer l'utilisation par l'armée ukrainienne de méthodes terroristes, et son porte-parole a souligné que le président prenait les décisions nécessaires pour assurer la sécurité de la Russie.
Ouais, ce qui justifie à ses yeux la poursuite des bombardements. Jean-Didier, comment la Russie envisage-t-elle la sortie d'une telle spirale ?
Bah écoutez, plusieurs signaux laissent croire qu'on s'en approche. Les délégations russes et ukrainiennes ont prévu de se revoir, même si on ne connaît pas la date ni le lieu de leur prochaine rencontre. L'échange de 1000 prisonniers de chaque camp durant le week-end et malgré d'intenses bombardements prouve que des canaux de communication fiables existent entre Kiev et Moscou. Enfin, dans tous les conflits, les attaques ont tendance à s'intensifier à l'approche du processus de négociation. On pourrait donc être aujourd'hui dans une telle configuration. La Russie cherche à affaiblir l'Ukraine pour maximiser ses marges de manœuvre lors des pourparlers à venir. Certains pensent même qu'en traitant le président russe de fou, Donald Trump adresse un message en creux à Volodymyr Zelensky, lui signifiant qu'il doit assouplir ses positions car il ne peut rien obtenir de plus de la part de Vladimir Poutine. Et ce, jusqu'à ce que Kiev et Moscou parviennent à un semblant d'accord, les combats risquent de s'intensifier pendant au moins quelques mois encore.
Jean-Didier Revoin en direct de Moscou.
Les archives nationales des Pays-Bas ont mis en ligne une base de données, 425 000 personnes ayant fait l'objet d'une enquête après la guerre.
Le prix à payer a été leur silence politique. Et c'est ainsi qu'il nous a fallu 80 ans à nous, les Néerlandais, pour arrêter de nous raconter la jolie fable de la résistance et réfléchir aux réels motifs derrière la collaboration.
Cette partie honteuse de l'histoire a disparu du débat public et elle a aussi été effacée au sein des familles.
Ça a vraiment été un grand choc.
Really big shock.
Qu'est-ce qu'on fait du passé de sa famille? Comment savoir ce que nos ancêtres ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale? Une question à laquelle les Néerlandais ont un nouveau début de réponse depuis peu. On va y venir dans quelques minutes. D'abord, parole à Dimitri Zuffray qui, lui, est allé chercher la réponse tout seul. Il le raconte dans son livre « Le sentier des vaincus » qui vient de paraître aux éditions Antipodes. Son grand-père était un soldat allemand pendant la guerre, né du côté des méchants, comme il le dit, comme il l'écrit. Sur la base des carnets de notes de ce grand-père, il a remonté le fil d'une histoire familiale pas facile à assumer. Il a cherché à savoir si son aïeul était un suiveur ou s'il croyait à l'idéologie du Troisième Reich. Dimitri Zuffray, qui travaille par ailleurs à la RTS, a d'abord dû reprendre les faits.
Durant toute mon enfance, il y avait une forme de mythologie familiale où on entendait des anecdotes. Mon grand-père s'est évadé d'un camp de prisonniers en Russie. Et j'ai grandi avec ces petites histoires. Et au moment de la mort de mon grand-père, en discutant avec ma famille, j'ai pu récupérer ces archives pour commencer à m'intéresser à cette thématique et à découvrir ce qui s'était réellement passé.
Mais c'est quelque chose dont on parlait dans votre famille très ouvertement?
Pas du tout. La guerre, la Deuxième Guerre mondiale, était quelque chose dont on ne parlait pas. Ma mère et ses sœurs disaient, elles ont tellement entendu ces histoires dans leur enfance qu'elles ne voulaient plus en entendre parler. Les plus vieux, mon grand-père est né donc en 1920, dans les années 50, 60, après la guerre, il y avait quand même cette forme de traumatisme et de cette volonté de plus en parler. Et après, face à ma génération, la génération donc des petits-enfants, non plus on n'en parlait pas, puisque la guerre, c'est pas vraiment fait pour les enfants, comme il le disait.
Vous l'avez connu, votre grand-père, quand même. Lui-même, il n'en parlait jamais, il restait évasif sur sa vie de soldat, vous écrivez.
Il disait très très peu de choses. Il racontait quelques anecdotes, il en a raconté quelques-unes avec à mon père notamment. Il racontait quelques petites histoires, mais auprès de ses enfants, en fait, moi je l'ai connu jusqu'à mes 22 ans, puisqu'il est mort en 2004. Et j'étais à l'université en études d'histoire et c'est ce moment-là où j'ai vraiment commencé à m'intéresser à cette histoire. J'ai essayé de le faire parler, d'en savoir plus, mais je me suis toujours heurté à des noms.
Après avoir travaillé sur ce projet, après avoir consulté ses notes, vous avez confronté ça à des documents historiques, vous avez vraiment fait un travail d'historien avec ce côté personnel, puis ce côté de l'histoire avec un grand H. Quel portrait vous avez réussi à tirer de votre grand-père? Est-ce que, par exemple, vous savez si il adhérait à cette idéologie du Troisième Reich, si il la suivait sans trop y réfléchir? À quel genre de portrait vous avez abouti?
Mon grand-père a été un de ces Allemands, il y a cette notion, ce terme allemand de Mitläufer, de suiveur. Et quand on a 20 ans, quand on est et grandit avec le nazisme, quand on entend que ça, il y a vraiment cette idéologie qui est quotidienne. Enfin, on pourrait faire des analogies avec l'histoire, enfin avec ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité, et ça résonne très fort. Aujourd'hui, moi, mon grand-père, j'ai compris que c'était un suiveur. J'ai compris que surtout que c'était un rouage précieux dans cette gigantesque machine de guerre nazie.
Et vous écrivez que vous avez appris ce que ça voulait dire d'être né dans le camp des méchants. Ça veut dire quoi, ça?
Ça a toujours été difficile de soutenir l'Allemagne. Quand on est aussi dans ma génération, quand on est jeune homme, on nous rappelle toujours les Allemands, les nazis. Toujours cette association-là. C'est vrai que la parole a commencé un peu à se libérer, notamment après la Coupe du Monde en Allemagne, où les Allemands ont été pour la première fois fiers d'être Allemands, fiers d'appartenir à ce peuple. Et aujourd'hui, découvrir ce parcours dans les mémoires de soldats, dans les mémoires d'officiers, tout ce qui a été publié du côté allemand, c'est surtout des hauts officiers, des gradés, des généraux qui racontent la guerre presque d'un point de vue très histoire militaire. Rares sont les ouvrages qui racontent aujourd'hui la vie justement d'un de ces rouages de la machine de guerre et la vie quotidienne.
L'histoire est écrite par les vainqueurs, c'est ce qu'on dit, c'est la réalité, à vrai dire, vous y faites référence d'ailleurs vous-même. Qu'est-ce que vous avez appris à travers l'histoire de votre grand-père que vous n'avez pas appris par l'histoire avec un grand H?
Alors, ce que j'ai appris, on pourrait décomposer la période de la guerre de mon grand-père en deux parties. La première, c'est quand il est sur le front français. On n'a pas vraiment l'impression qu'il est question de guerre. Il y a, on va au cinéma, on rencontre des Français, on rencontre des Françaises. Il y a cette obsession pour les pièces détachées, la bonne nourriture. Enfin, c'est un peu la dolce vita. Il faut savoir que les soldats allemands avaient aussi beaucoup d'argent, enfin, avaient de l'argent, et aussi, du coup, cette facilité à créer des contacts avec la population française. Donc ça, c'est vraiment cette première partie. Et en octobre 42, quand sa division est appelée à aller sur le front Est, ben là, la situation change. Même si mon grand-père ne décrit pas de scène de guerre, je ne sais toujours pas s'il a tué une personne ou s'est servi de son arme, mais a priori, du fait qu'il était dans les troupes de logistique, du fait aussi qu'il s'est fait sermonner pour avoir son fusil mal entretenu, tout laisse à croire qu'il n'entretenait pas très très bien ses armes et qu'il était plutôt obsédé par tous ses appareils, par tout l'appareil logistique et par toute la reconstruction des véhicules. Et ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement intéressant.
Mais la guerre est à distance, hein, pour lui.
La guerre n'est jamais présente. En fait, ça a été très intéressant de voir au moment où il était à Archev, qui est une localité qui est pas trop trop loin de Moscou, à peu près une centaine de kilomètres. Bah, mon grand-père dit, voilà, il fait froid, il faut que je mange des patates, il faut changer les pièces détachées du véhicule. Et c'est uniquement en consultant des mémoires, bah, justement, d'un officier allemand qui raconte que c'est la ligne de front. Le front centre du côté du front est.
Le soldat allemand, et c'est vrai qu'il y a très peu de films qui mettent en évidence des soldats allemands. On humanise plutôt le camp allié. Là, votre démarche, elle humanise au fond ce soldat allemand qui, sinon, dans l'imaginaire de quelqu'un qui n'y est pas lié, bah, voilà, c'est une sorte de masse comme ça, indistincte. Est-ce que vous êtes conscient de ça? C'était une volonté? C'est quelque chose qu'on peut faire maintenant, qu'on n'aurait sans doute pas pu faire il y a 20 ans? Quel est votre rapport à cette question-là de l'humanisation de cette figure du soldat allemand?
En reformulant un peu ce que vous venez de dire, enfin tous les soldats allemands étaient des humains. Mais d'un côté, il y a cette importance aujourd'hui, 80 ans après la fin de la guerre, de pouvoir faire un travail de mémoire, de pouvoir continuer à raconter comment était l'histoire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on l'évoquait tout à l'heure, l'histoire s'est écrite du côté des vainqueurs. Et là, je trouve extrêmement important de pouvoir raconter ce que les vaincus ont ressenti. Moi, je reste absolument admirable face à la volonté de résilience de mon grand-père quand, à la fin de la guerre, sa première obsession, c'est de reconstruire son garage, de continuer à vivre et de s'installer pour pouvoir se stabiliser. C'est quand même assez fort après avoir combattu pendant 5 ans et avoir quasiment tout perdu.
Mais d'ailleurs, il n'arrive pas vraiment à redémarrer en Allemagne. C'est pour ça qu'il part pour la Suisse. C'est pour ça qu'on parle, vous et moi aujourd'hui dans ce studio, que vous êtes là en Suisse, Dimitri Zuffray. Pourquoi il n'a pas réussi à redémarrer en Allemagne et pourquoi la Suisse?
Alors en fait, après la guerre, et ça a aussi été quelque chose de très intéressant à pouvoir récupérer, et je suis assez admiratif du travail d'archiviste et qu'a fait mon grand-père en collectionnant et en conservant absolument toutes ses lettres, j'ai pu découvrir aussi quelle a été la difficulté de faire reconnaître ses diplômes dans une Allemagne d'après-guerre. Puisque toute son expérience de mécanicien, entre 20 et 25 ans, il l'a eu sur les champs de bataille. Et après, comment on fait reconnaître cette expérience-là? Ça a été très compliqué et finalement, la solution qui s'est avérée le plus simple, ça a été d'abord lui qu'il émigre dans la région de Bâle pour travailler dans un garage. Et après, ils se sont rendus compte, enfin ma famille s'est rendu compte que la meilleure solution, c'était de faire venir le reste de la famille. Et après quelques années, dans les années 50, ma mère et ses parents sont arrivés du côté de Montreux.
Dernière question, Dimitri Zuffray, peut-être un petit peu plus personnelle, mais est-ce que votre relation à ce passé-là, elle est apaisée aujourd'hui?
Moi, je suis très content d'être arrivé à faire ce travail de passeur, en quelque sorte, puisqu'il y a toute sa mémoire, tous ses écrits, qui finalement étaient écrits aussi dans un allemand très difficilement lisible. On parle de Fraktur ou de Zütterlin, qui sont encore lisibles que par certaines personnes. Ça, j'ai eu énormément de peine
à trouver. Certains types d'écriture. Hein,
ouais, oui. Certains types d'écriture allemand, c'est un peu schématiquement, on pourrait dire l'allemand patte de mouche. Et là, heureusement que j'ai pu trouver des personnes encore vivantes qui pouvaient me lire ces lettres. Sinon, ça aurait été une expérience un peu cryptographique. Donc là, je suis très content de pouvoir transmettre ça et aussi de pouvoir communiquer autour de la vie de mon grand-père parce que spécifiquement, ce qui s'est passé il y a 80 ans, il y a énormément de résonance avec ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est pour ça que je trouve c'est important de pouvoir comprendre enfin ce qui se passait dans la tête d'un des vaincus.
Dimitri Zuffray qui publie Le Sentier des Vaincus aux éditions Antipode. Aux Pays-Bas, depuis le début de l'année, chacun peut facilement vérifier si l'un de ses ancêtres ou connaissances a collaboré avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans le cadre d'un grand projet de numérisation de documents baptisé La Guerre au Tribunal, les archives nationales ont mis en ligne une base de données dans laquelle figurent les noms de 425 000 personnes, des personnes ayant fait l'objet d'une enquête pour collaboration avec l'ennemi après la libération du pays en mai 1945. Alors il suffit de taper un nom sur le site internet dédié pour savoir si un dossier existe. Ensuite, pour le détail, eh bien, il faut aller en personne aux archives nationales. Et c'est la ruée, reportage Jean-Jacques Herry.
Avant de pouvoir s'asseoir aux tables blanches au cœur des archives nationales, il faut patienter 2 mois sur liste d'attente. Chaque jour, 60 personnes prennent rendez-vous.
En tout, il y a 3,8 km d'archives pour 425 000 personnes suspectées.
Soit 30 millions de pages de notes, de comptes rendus de procès ou de photos. Les dossiers sélectionnés, rangés dans des cartons, arrivent sur des chariots roulants poussés par les archivistes. À l'intérieur se trouvent les documents jaunis, dactylographiés ou manuscrits qui permettront peut-être de savoir ce qu'un arrière-grand-père, une grand-mère ou un grand-oncle a bien pu faire pendant l'occupation pour voir son nom figurer sur la liste des personnes ayant fait l'objet d'une enquête. Erwin Toil est le responsable de la communication des archives.
Si le nom apparaît sur le site internet, ça veut dire qu'il y a un dossier, une enquête. Ça ne présage en rien de la culpabilité ou de l'innocence. La majorité a été innocentée, ou alors ça n'est pas allé plus loin parce qu'il n'y avait pas de preuves.
Et puis il y a les autres. Devant nous, Erwin Toil ouvre une boîte en carton. Elle contient le dossier criminel d'un vendeur de voitures d'Amsterdam dans les années 40, un monsieur tout le monde au début de la guerre, devenu membre et petite main du NSB, le Parti National Socialiste des Pays-Bas.
Là, on a le témoignage d'une employée d'un office notarial d'Amsterdam qui s'occupait de l'achat et de la vente de maisons appartenant à des juifs. Le suspect en profitait. Il était membre du Parti National Socialiste et ça lui donnait des accès à ce genre de marché. Et ça, c'est une liste de maisons où vivaient des familles juives qu'on allait déporter. On trouve les noms. Eisenman, Cohen, c'est des éléments de preuve.
À la libération, l'homme a été condamné à une peine de prison et privé à vie de son droit de vote. Si la numérisation des archives fait autant de bruit, c'est parce que jusqu'ici c'était le silence, ou presque, tant la collaboration aux Pays-Bas a longtemps été un impensé. Alex Decker, 53 ans, est le secrétaire de l'association Wehrgruppe Erkening, qui réunit des descendants de collaborateurs. Lui, dont le grand-père était un soldat allemand, résume très simplement les choses.
En 2002, j'ai commencé à enseigner l'histoire. On magnifiait la résistance. On disait que tout le monde était contre l'occupation, mis à part quelques-uns. Regardez comme nous avons été grands. Or, ce discours-là ne résiste pas à l'épreuve des faits. Mais aujourd'hui, les choses changent. Ça a commencé il y a 10 ans, je dirais. On peut maintenant raconter une version différente. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est encouragé, mais on peut au moins en parler.
Pour l'historien Johannes Auwinten-Katz, professeur émérite à l'Université d'Amsterdam et spécialiste de l'Holocauste aux Pays-Bas, l'ouverture des archives et leur numérisation s'inscrivent dans ce mouvement qui permettra peut-être aux Pays-Bas d'enfin affronter leur passé.
Cela montre jusqu'à quel point on a mis le problème de la collaboration sous le tapis pendant des décennies. On a opéré une grande purge parmi ceux qui avaient collaboré militairement pour les persécuteurs de juifs et pour les membres du parti nazi. Et une fois qu'on les a punis, on a décidé de recouvrir d'un drap toute cette histoire.
Et une fois les peines de prison effectuées,
on a autorisé ces anciens criminels politiques, c'est comme ça qu'on les appelait, à reprendre leur place dans la société, à gagner décemment leur vie. Mais le prix à payer pour ça, c'était le silence politique. Et c'est ainsi qu'il nous a fallu 80 ans pour arrêter de nous raconter la jolie fable de la résistance et réfléchir au réel motif derrière la collaboration qui a été considérable aux Pays-Bas.
Sur les 140 000 juifs recensés dans le royaume avant la guerre, 102 000, les trois quarts environ, ont été exterminés ou sont morts dans les camps, soit, en proportion, le chiffre le plus élevé en Europe. Cette partie de l'histoire a disparu du débat public et elle a aussi été effacée au sein des familles.
Dans celle de Stéphanie Biesseufel, on ignorait tout du passé de l'arrière-grand-père jusqu'à ce que l'autrice et journaliste tombent sur un vieil article de presse le décrivant comme un collaborateur et la poussant à se rendre aux archives.
Et à partir de là, je suis tombée sur un lourd secret de famille dont personne n'était au courant. Sur les 14 membres de la famille, 12 enfants, 2 adultes, 10 collaboraient avec les nazis, gardiens dans les camps de concentration ou membres de groupes de chasseurs de juifs. Ça a vraiment été un grand choc.
Le projet War in Court, la guerre au tribunal, prévoit la fin de la numérisation de l'ensemble des archives pour 2027. Tout est déjà prêt pour qu'elles deviennent accessibles sur Internet depuis le monde entier. Mais pour cela, il faudra encore attendre un peu qu'une nouvelle loi sur la protection des données vienne en encadrer la mise en ligne et les modalités d'accès. Jean-Jacques Héry pour RTS aux Pays-Bas.
Et c'est la fin de Tout un monde. Tout un monde qui fusionnera demain exceptionnellement avec La Matinale pour une émission spéciale de 7h à 8h30. Une émission autour de Gaza. Gaza, la situation au Proche-Orient. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment avancer? C'est une émission avec des invités, des témoignages exceptionnels, nos correspondants aussi sur le terrain. Et vos questions, vous pouvez d'ores et déjà les envoyer par WhatsApp en message écrit ou en note vocale courte au 079. 1 34 34 70 079 1 34 34 70. Dans 3 minutes, on en parle et tout de suite les infos d'Audrey Mandy, les 8h30.
La commission de la concurrence se penche sur la reprise d'Hôtel Plan. En février, Migros a cédé sa filiale voyagiste à Der Tour. Ce groupe est déjà actif dans le domaine en Suisse avec ses Marconi et Helvetic Tours. Avec cette acquisition, il devient le plus grand voyagiste de Suisse. La Comco indique que ses premières investigations ont révélé des indices d'une position dominante. Les Suisses aiment les grosses voitures et ça se confirme dans un rapport publié ce matin par Comparis. L'année dernière, plus de la moitié des nouvelles immatriculations dans le pays portaient sur des SUV. Ces véhicules utilitaires sportifs plus hauts, plus grands et souvent 4x4. La vente de nouveaux modèles électriques soutient cette tendance. 3 des 5 alpinistes morts samedi sur le glacier d'Alder près de Zermatt sont désormais identifiés. La police valaisanne l'a indiqué hier. Il s'agit de 2 hommes de 35 et 38 ans ainsi qu'une femme de 34 ans, tous suisses. Selon les premières investigations, le groupe envisageait de gravir le Rimfishorn. Ils ont déposé leur ski pour poursuivre à pied en direction du sommet et auraient été emportés par une avalanche. La colère gronde à nouveau dans les campagnes françaises. Des tracteurs ont manifesté hier devant l'Assemblée nationale pour soutenir une loi controversée qui promet de faciliter leur quotidien, mais qui provoque une levée de boucliers au sein des défenseurs de l'environnement. Les députés français qui votent aussi aujourd'hui sur la création d'un droit à l'aide à mourir. Première étape d'une réforme majeure souhaitée par le président Emmanuel Macron. Le suicide assisté pourrait devenir accessible aux personnes atteintes d'une affection grave et incurable en phase avancée ou terminale. À Liverpool, au Royaume-Uni, une voiture bélier a fait 27 blessés hier soir. Elle a foncé sur une foule qui célébrait la victoire du club de football de Liverpool en première ligue. La police a interpellé le conducteur, un Britannique de 53 ans, et précise que ce drame n'est pas traité comme du terrorisme, mais comme un acte isolé. En tennis, Stan Wawrinka n'a pas passé le cap du premier tour hier à Roland-Garros. 10 ans après son sacre à Paris, le Vaudois s'est incliné en 3-7 face au Britannique Jacob Fernley. À l'issue de la rencontre, il a concédé n'avoir aucune garantie de revenir à Roland-Garros l'an prochain.
Infotrafic RTS.
La route de Mérin est toujours fermée entre la route de Prébois et l'avenue de Matenien en direction de la France à la suite d'un accident. Une déviation est signalée et toutes les rues adjacentes ainsi que les sorties autoroutières de Mérin sont congestionnées.
On en parle. L'émission conso et services de RTS Première.
Bonjour, l'équipe de ce matin, Frédéric Volerick, Xavier Bloquet, Isabelle Fiot, bonjour.
Bonjour.
Quand on est âgé et qu'on ne peut plus vivre à la maison de manière autonome, on termine souvent son existence dans un EMS, établissement médico-social. Et l'EMS, eh bien on en parle à notre guichet à partir de 9h, Isabelle.
Oui, l'entrée dans un home est souvent un passage difficile pour la personne âgée. Elle doit faire le deuil de son logement et de sa vie d'avant. Quels sont ses droits dans cette nouvelle demeure collective? Peut-elle demander une chambre individuelle, des activités activité particulière? Peut-elle sortir à sa guise? Et quels sont ses devoirs ainsi que ceux de ses proches? Eh bien, on attend toutes vos questions sur la vie en EMS dès maintenant au 0800 108 208. Notre standard est déjà ouvert.
Et je vous invite aussi à nous envoyer un message vocal au 076 206 12 12. Chercher un job d'étudiant sera désormais plus facile. C'est en tout cas la promesse d'une nouvelle application, Frédéric.
Oui, elle s'appelle Fast Staff, voilà, je vais y arriver. Elle vise à mettre en lien, comme son nom l'indique, entreprises et étudiants au niveau local très rapidement. On en parle dans quelques instants.
Enfin, deuxième épisode de notre série Tous au balcon. Ce sera vers 8h45. On parlera de sécurité avec Xavier Bloch. Un balcon avec vue panoramique sur toutes les questions du quotidien. C'est On en parle et on s'y installe jusqu'à 10h. Bienvenue.
Philippe Gérard.
Trouver un job étudiant flexible, proche de chez soi, dans une entreprise qui a besoin d'une main-d'œuvre rapidement mobilisable, c'est le pari d'une application créée par un étudiant et une étudiante, Frédéric Vollery.
Une application appelée FastStaff, soutenue par 7 communes, dont la région de Nyon, la commune de Gland et la commune d'Échallens. Elle est gratuite pour les étudiants, mais payante pour les entreprises à hauteur de 25 francs pour 5 annonces ou 150 francs l'abonnement de 6 mois. Pour l'instant, l'application compte 720 étudiants inscrits pour 15 entreprises partenaires. Et le but, c'est de créer le match entre des étudiants qui cherchent un petit job, mais qui ont des horaires de cours qui changent souvent, et des entreprises qui ont besoin d'une main-d'œuvre ponctuelle très rapidement.
Bonjour Dana Caloni.
Bonjour.
Et bonjour Matteo Melfi.
Bonjour.
Vous êtes respectivement étudiante en psychologie et étudiant en HEC à l'Université de Lausanne. C'est vous qui avez conçu, qui avez co-créé cette application. Il existe déjà des agences d'intérim, des plateformes en ligne qui proposent des jobs d'étudiants. Alors pourquoi créer une application supplémentaire?
Alors nous, ce qu'on a souhaité faire avant tout, c'est surtout couvrir cette région de la Suisse romande qui est un peu mise de côté par ces plateformes-là. Et en étant étudiant, Dana et moi-même, on a vu le problème de l'intérieur. Du coup, voilà, c'est ça notre motivation principale.
À quelle région vous faites allusion?
La Suisse romande, principalement.
D'accord, la Suisse romande, ouais. Dans son ensemble.
Mm-hmm. Exact.
Et quel type de petit job est-ce qu'on peut trouver, Dana Caloni?
Alors, pour l'instant, on a des jobs surtout dans la restauration, dans tout ce qui est le service, aussi dans le retail, donc la vente, notamment avec notre partenaire l'outlet Aubonne. Nous avons également, nous visons aussi les entreprises de maraîchage, notamment avec les saisons estivales à venir et l'événementiel.
Et ça marche? Combien est-ce que vous avez de missions pour l'instant?
Alors pour l'instant, il y a environ, je dirais, 6-7 missions qui ont été faites grâce à l'application. Et elles ont été faites avec grand succès.
Ok, bah ça fait que 2 mois que le
exactement, oui,
que,
ça
que
fait
vous avez
mois.
Lancé le projet.
Exactement.
À partir de quel âge est-ce qu'on peut s'inscrire?
Alors à partir de 18 ans. Oui, il faut mettre sa carte d'identité de manière à prouver qu'on a 18 ans.
Et puis, quelles autres informations est-ce qu'on doit donner? CV, permis de conduire?
C'est principalement des informations de base. Après, le profil est assez modulable selon la personne. C'est-à-dire qu'imaginons, j'ai des formations sur les premiers secours, je peux le mettre, ça peut être un atout pour moi. Donc, c'est toutes des informations assez utiles.
Et comment ça marche après on reçoit une notification quand il y a un job qui nous concerne? Comment ça se passe?
Du coup, l'étudiant se connecte sur la plateforme et oui. Il peut voir du coup les différents postes qui sont à proximité de sa position géographique. Mm-hmm. Donc, nous, on met beaucoup ça en avant parce qu'on souhaite que faire de la proximité, éviter d'avoir des personnes qui doivent prendre 2 heures, 3 heures de train ou 2 heures de voiture pour pouvoir se rendre pour faire, 3 heures de travail. Ça n'a pas vraiment de sens. Donc voilà, c'est ce qu'on a cherché à mettre, vraiment cet aspect de proximité avec les entreprises.
Mais d'immédiateté aussi, visiblement, parce qu'il faut être mobilisable assez vite. Ça veut dire que, par exemple, si une entreprise a besoin d'un restaurant, je dis n'importe quoi, un restaurant a besoin de quelqu'un pour le service le soir parce qu'il y a quelqu'un qui ne peut pas se libérer, qui est malade. Comment ça se passe? On reçoit tout de suite une notification. Vous êtes intéressé par le service, alors venez ce soir.
Exactement, alors c'est ça aussi l'avantage d'une application, c'est que nous on envoie aussi les notifications à tous les utilisateurs et on a aussi des réseaux sociaux où on met des stories et comme ça les gens, on garde les personnes actives sur notre application.
Voilà. On a d'ailleurs une pour ce soir, hein, d'un restaurant à Saint-Maurice. Voilà. Ah
Donc c'est vraiment très très réactif. Ça dit Frédéric, hein, ce n'est pas le seul outil à disposition, il en existe pas mal d'autres.
Oui, le canton de Vaud propose une liste de plateformes comme celle de l'association Ado Job pour les romans de 15 à 25 ans. Il y a aussi Academic Work, Couple, La Croix-Rouge ou PetitBoulot.ch. Jura et Jura Bernois proposent également une bourse aux petits jobs sur le site Oxygène.ch. Le canton de Genève met en avant la boîte à boulot. Et quant aux universités, hautes écoles, elles proposent toute une plateforme de petites annonces d'emploi. Pour autant que vous soyez inscrit comme étudiant, vous pouvez aussi aller sur les plateformes standards comme JobUp, Job.ch, JobScout24, etc. Mais il faut mettre le mot étudiant dans le moteur de recherche.
Voilà, et si vous n'avez pas pu tout noter, toutes ces coordonnées, toutes ces ressources, sachez que notre éditrice numérique Nathalie Hoff les a mises à votre disposition sur notre plateforme à nous, rts.ch/. On en parle. Mathéo Melfi, votre application est quand même payante pour les entreprises. Est-ce que vous prélevez une commission sur le salaire versé aux étudiantes et étudiants?
Alors non, pas du tout. C'est ça là, notre point fort, disons aussi, c'est que on n'est pas une agence de placement, mais on est vraiment une plateforme de mise en relation. C'est-à-dire que notre travail, entre guillemets, s'arrête dès le moment que les deux parties ont été connectées. Donc ça fait qu'on a des frais moins élevés et du coup, bah, on peut facturer aussi ça moins cher. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, je crois que pour une annonce, c'est en moyenne 5 francs, ce qui est relativement acceptable.
Est-ce que c'est l'entreprise qui rémunère directement l'étudiant ou est-ce que c'est votre application ?
Oui, exactement. Donc c'est l'entreprise qui rémunère directement l'étudiant qui est venu travailler. Après, ils gèrent entre eux comment ils veulent faire.
La rémunération, elle est indiquée sur l'application ? Ou bien elle est négociée
oui,
avec...
Tout est noté sur... à partir du moment où l'application, l'entreprise, pardon, poste une annonce, elle doit mettre certaines informations, donc toutes les informations nécessaires, donc le lieu, le salaire, justement, est-ce qu'il y a un dress code, et toutes ces informations sont visibles par les étudiants et les étudiantes.
Et puis, il y a une particularité, l'entreprise évalue la performance de l'étudiant, mais l'étudiant peut aussi donner un avis sur l'entreprise, donc ça oblige chacun à travailler sérieusement ?
Exactement, c'était ça notre but. On s'est beaucoup inspiré de la plateforme Airbnb, donc c'est-à-dire que les entreprises, à la fin de leur, à la fin de la mission, on va dire, du job, peuvent noter la qualité du travail de l'étudiant, mais on voulait aussi que l'étudiant ou l'étudiante avait son mot à dire dans tout ça. Est-ce qu'il a reçu les bonnes explications ? Est-ce qu'il a bien été traité, est-ce qu'il a bien été payé, et ça nous permet à nous aussi de monitorer et de régler les choses s'il y a un litige.
Actuellement, vous en êtes à combien ? Combien d'étudiants inscrits ? Combien d'entreprises inscrites ?
Alors, on n'a pas regardé ce matin, mais je pense
autour
de...
Oui, moi j'ai regardé, bien sûr. On a 766 étudiants.
Oui, c'est pas mal.
Et on a, je crois, 18 entreprises.
18 entreprises, donc appel aux entreprises, hein, parce que 18, c'est pas beaucoup quand même.
Exactement.
Hein, vous visez quoi ?
C'est ça notre problème à l'heure actuelle. Du coup, ben, pour les étudiants, étant donné que c'est quelque chose qui est gratuit, ben, ils sont hyper intéressés.
Oui.
Et pour l'entreprise, ben, il faut motiver, il faut qu'on prenne de la crédibilité, d'où le fait qu'on s'est entouré de beaucoup de communes, parce que du coup, c'est un bon agent intermédiaire. Mais ça se fait gentiment. Comme c'est en parallèle de nos études aussi, c'est quelque chose qui nous prend beaucoup de temps, donc on fait... comme on peut, mais on vise en tout cas d'atteindre les 50 d'ici l'année prochaine.
Voilà, donc si vous êtes entrepreneur ou chef d'une société quelconque, d'un restaurant par exemple, on sait qu'il y a beaucoup de jobs qui sont dans le service, dans la restauration, et que vous nous écoutez, que vous avez besoin de main-d'œuvre assez rapidement, un main-d'œuvre étudiante, et ben vous pouvez vous inscrire. Cette application, je le rappelle, elle s'appelle Fast Staff.
Voilà, mot.
petit boulot rapide. Voilà, Fast Staff. Et donc c'est vous. Dana Caloni et Matteo Melfi, qui en êtes les co-créateurs. Vous êtes étudiants tous les deux à l'Université de Lausanne. Merci beaucoup d'être venus en parler.
Merci à vous.
Merci
quelques
à vous.
Minutes dans cette émission. Et donc, toute la liste des liens vers les plateformes qui permettent de trouver un job d'étudiant sont sur notre site. Je le rappelle, on en parle rts.ch/, on en parle. Mais si vous avez vous-même une ressource qui n'y figure pas, ben vous pouvez nous écrire à onenparle@rts.ch. Et si vous avez un balcon que vous aimez y passer du temps, eh bien restez à l'écoute. Hein. Votre balcon est-il bien aménagé contre le risque d'accident ? C'est ce qu'on verra dans 3 minutes, dans le deuxième épisode de notre série « Tous au balcon ».
On m'a dit que ça serait facile. On m'a dit avant que j'arrive ici. On m'a dit de l'exil. On m'avait dit que c'est le paradis.
Musique suisse sur la thèse première avec ce duo complice depuis de longues années, Simon Gerber et Sophie Noir. Il et elle se sont associés ici avec Claude Cambert pour sortir cette année un album ensemble sous le nom de Noir et Gerber, un album intitulé Partout Partout. Noir et Gerber qui sera en concert le 28 mai à la plage à Delémont et le 15 juin au château des Toits. Tous au balcon, on s'intéresse à cette petite extension aérienne de son chez soi toute cette semaine dont on en parle. Alors après les questions juridiques sur l'utilisation du balcon hier, eh bien ce matin on se penche sur la sécurité. Comment aménager son balcon pour éviter les chutes et autres accidents domestiques. D'ailleurs les balcons doivent être sûrs dès leur conception, dès leur construction. C'est pourquoi on va mettre le cap sur Verrier dans le canton de Genève. Dans cette commune, le bureau d'architecte Dreyer Frenzer réalise 3 grands immeubles d'habitation équipés de balcons. Le lotissement s'appelle les Messicoles. Visite de ces balcons en chantier avec Erika Sands, architecte au micro de Xavier Bloch.
Oh là là, c'est le chantier ici alors.
Oui, oui, c'est vraiment, on est vraiment dans la phase. Bon, on a fini les grosses œuvres, ça veut dire la partie extérieure du bâtiment et de la structure. Et là aujourd'hui, on est dans le bâtiment qui est le moins avancé.
Combien d'appartements dans ce bâtiment ?
40.
Et combien de balcons ?
40 aussi.
On va les visiter ?
Oui, bien sûr. Accompagne-moi.
Alors, c'est un grand appartement. On entre, les murs ne sont pas encore crépis, sont encore blancs. On voit les parpaings, le sol n'est pas encore posé. Et puis les balcons, on va essayer d'ouvrir la baie vitrée. Un appartement très, très, très lumineux. Ah, il n'y a pas encore la poignée, là.
Non, en fait, pour des questions de sécurité, on limite, on va dire, les accès sur les balcons pour éviter, en fait, aussi des dégâts des entreprises qui ne devraient pas travailler sur les balcons. Ah, voilà, réussi.
Et on sort sur le balcon, je passe le premier. Waouh, le balcon. C'est presque une pièce en plus.
Exactement, c'est presque 12 mètres carrés. Alors, on a vraiment un projet avec des balcons très généreux.
On peut aller jusqu'au bout du balcon ?
Oui, ouais, bien sûr.
Alors, sans faire un cours d'architecture, un balcon standard, il se compose de combien d'éléments et de quels éléments ?
Alors, l'élément de base, c'est les sols, c'est la dalle. Et après, il y a certains éléments qui sont optionnels. Nous, dans ce cas, on a des colonnades, des poteaux.
En béton, là.
Et en béton, on a une dalle en béton, ça veut dire un plafond. Après, on a la balustrade, que c'est ce qui nous empêche de tomber.
Et qui est réglementé.
Exactement. Il y a vraiment une norme avec plein de possibilités. Mais ce qui est vraiment la hauteur est définie en fonction de ces éléments. Nous, on a une balustrade métallique avec des barrodages. Alors, on devrait respecter 1 mètre de hauteur depuis la surface du sol.
Elle est fantaisiste, votre balustrade.
Oui, en fait, on a décidé de profiter d'un article qui est dans la norme qui nous... Parce que la balustrade, en fait, elle a la main courante. C'est ça ce qui définit la partie supérieure. Et puis, nous, on voit qu'il y en a une double main courante pour éviter que les barrodages, que c'est les éléments verticaux, montent jusqu'en haut. Et ça, on a décidé de les faire comme ça parce qu'on voulait, en fait, que quand on soit assis sur les balcons, on puisse profiter du paysage et éviter d'avoir le barrodage qui sont en face de la tête, qui nous empêche de regarder ces magnifiques champs qui sont autour de notre projet.
Le barrodage, c'est les barreaux de la balustrade.
Exactement, c'est les éléments verticaux.
Erika Sands, on revient dans combien de semaines ici pour vraiment pouvoir s'installer sur un balcon totalement fini ?
Alors, pour le bâtiment en face, ça sera en juillet pour l'été. Celui-ci, qui est le dernier, ça sera plutôt pour Noël.
Cadeau.
Oui, c'est ça, cadeau du Père Noël.
Des balcons en attente de locataires. C'était Erika Sands, architecte, un reportage à Verrier près de Genève. Mais une fois l'appart loué et occupé, comment sécuriser le balcon ? Voici les astuces de Cédric Eschmann du BPA, le Bureau de Prévention des Accidents, au micro toujours de Xavier Bloch. Et son premier conseil, portez toujours des chaussures sur un balcon.
C'est important d'être chaussé en conséquence, c'est-à-dire qu'un balcon, inévitablement, il a un sol avec des qualités antidérapantes à la base, mais il se peut effectivement avec le temps qu'il y ait des saletés, des poussières, des graisses qui s'accumulent sur le balcon. Donc s'il n'y a pas un entretien qui est adéquat, on devrait également avoir des chaussures avec des semelles qui sont adéquates pour éviter de glisser et puis éviter les chutes qui vont résulter.
Ou alors pieds nus.
Alors pieds nus, c'est plus délicat, on dira, selon les conditions météorologiques. Donc ça fonctionne bien pour les jeunes enfants en qualité sèche, mais quand on a une humidité ou des conditions pluvieuses, on évitera effectivement les pieds nus.
Cédric Hachemann, vous êtes chef du service Habitat et Loisirs au BPA, le Bureau de Prévention des Accidents. On entr'ouvre la porte, la baie vitrée, on sort. Il y a parfois une marche, hein, un petit seuil à franchir qui peut poser problème selon l'âge des locataires pour accéder au balcon.
Surtout si on ne les distingue pas hein, par rapport au reste du sol.
C'est-à-dire si on voit mal?
Si on voit mal, ou alors si le seuil est mal marqué, nous on propose ou on recommande de marquer ces différences de niveau avec des bandes de couleurs qui sont facilement atteignables au niveau des commerces locaux, hein, et puis à des prix raisonnables. Donc ça, c'est des efforts qu'on peut consentir en tant que propriétaire ou locataire.
Je pose mon scotch à la sortie de mon salon.
Exactement.
Alors, la bande antidérapante est posée, on est bien chaussé, la porte est ouverte, il fait bon, on s'installe sur le balcon. Attention à ce qu'on pose sur le sol, hein. On peut vite déraper en fonction des meubles ou des tapis ou autres couvertures que l'on peut poser au sol.
Alors exactement, oui, c'est un point très important, c'est d'avoir un minimum d'ordre sur le balcon pour éviter justement qu'on trébuche sur des objets, des jouets hein, par exemple, qu'on ne voit pas. Et puis au niveau du mobilier, ça serait bien d'avoir effectivement des armoires ou des meubles qui soient suffisamment stables pour ne pas basculer et puis à la limite qu'on les fixe au sol ou contre les murs adjacents.
Fixer le mobilier sur le balcon.
Alors le mobilier qu'on ne souhaite pas déplacer, je parle pas des chaises ou des tabourets inévitablement ou des tables qu'on va pouvoir déplacer ou vouloir déplacer en fonction de l'ensoleillement, mais pour le mobilier fixe qu'on va garder à l'année, c'est des choses qu'on peut envisager effectivement.
On s'est beaucoup intéressé au sol, on va lever les yeux Cédric Hachemann. Alors je m'approche de la balustrade, hein, on se penche pas, évidemment, hauteur standard dans un appartement vraiment typique.
Alors, au jour d'aujourd'hui, les règles de l'art, donc les standards normatifs, préconisent en moyenne générale une hauteur minimale de 100 cm, donc 1 mètre entre le fond fini et le haut du garde-corps.
Je pense que ça varie en fonction de l'étage auquel on habite.
Oui, tout à fait, vous avez raison. Donc, pour certaines hauteurs, le BPA préconise un peu plus à partir de 12 mètres de hauteur du 4e, 5e étage. Hein, donc, on va rehausser d'environ 10 cm au minimum. Mais surtout pour des tours comme vous avez ici autour des studios, des tours dans les zones urbanisées, Lausanne, Genève, etc. Donc, on va même rehausser de au moins 20 cm pour éviter ce sentiment de vertige ou d'insécurité qui est provoqué par ces hauteurs de chute.
Alors, je vais sortir mon centimètre, je l'ai toujours dans la poche, donc vous m'avez parlé de 100 cm. Si je remarque que la balustrade du balcon de mon appartement mesure moins de 100 cm, par exemple 90, 95, qu'est-ce que vous me conseillez de faire?
Alors, je vous conseille d'interpeller effectivement le propriétaire de l'ouvrage, du bâtiment, pour mentionner cette problématique, et puis surtout par l'intermédiaire de cette personne ou de la régie, de faire appel à des spécialistes pour pouvoir corriger le garde-corps.
Alors, on a les yeux rivés sur la balustrade, sur les murs, on se tourne un peu sur le mur, il y a parfois des prises électriques. C'est bien ou c'est dangereux une prise électrique sur son balcon?
Au jour d'aujourd'hui, c'est pas dangereux, puisqu'elles sont conçues aussi pour répondre à certains critères de sécurité.
Elles sont couvertes, par
contre. Elles sont couvertes. Normalement, à l'extérieur, elles sont couvertes, mais ça n'empêche pas, effectivement, un enfant d'ouvrir la couverture et puis d'aller avec ses doigts dans la prise, respectivement, dans la fiche électrique. Donc, pour ça, il existe aujourd'hui déjà des fiches qui sont conçues avec une protection enfant intégrée. Mais si c'est pas le cas, on peut également acheter dans le marché des protections enfant qu'on intégrera dans la fiche.
Le balcon n'est pas toujours protégé, hein. Il peut pleuvoir sur un balcon et sur certains balcons, il y a des prises électriques. Humidité, électricité, ça se marie pas très bien, hein.
Alors c'est la raison de la protection, inévitablement, oui. Et puis vous me donnez l'occasion de parler aussi de l'humidité par rapport à l'écoulement de l'humidité ou de l'eau. C'est des choses qu'il faudrait également assurer sur un balcon. Vous imaginez bien que pour des températures en dessous des 0 degrés, si vous avez des quantités d'eau qui s'amassent sur le balcon, vous aurez inévitablement la formation de glace qui va entraîner des glissades et puis des trébuchements ou des chutes.
Et ça, c'est le locataire qui doit être attentif.
Ça, c'est le locataire qui doit régler ce genre d'aspect, effectivement, oui.
On a fait le tour, si on devait résumer en trois points.
Trois points très importants qu'on aimerait transmettre, c'est bien entendu la surveillance des jeunes enfants constante et puis avoir toujours un œil ouvert sur leurs activités, ça c'est un point important. C'est en tant que locataire d'avoir un ordre et puis un nettoyage, donc s'occuper vraiment de son balcon de manière régulière, ça ne veut pas dire qu'on peut rien faire, hein, on l'a dit tout à l'heure. Et puis, pour le reste, c'est de pas s'inventer électricien, pas spécialiste en rehaussant son garde-corps ou en voulant installer des choses fixes en matière d'électricité. Je pense là, des panneaux solaires, des paraboles, c'est des choses qu'on ne devrait pas faire soi-même. Et puis, on devrait faire intervenir des spécialistes dans ces domaines-là, sur son balcon, oui.
Cédric Eschmann du BPA, le Bureau de Prévention des Accidents. Et sachez que pour en savoir plus, le BPA a publié une brochure à ce sujet. Le lien figure sur notre page rts.ch/. On en parle. Demain, troisième épisode de cette série Tous au balcon. On va parler des animaux. Comment aménager son balcon pour que nos chats, nos perruches, nos chiens, nos lapins domestiques s'y sentent à l'aise. On en parlera demain avec un vétérinaire comportementaliste.
It's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark.
Rolling in the deep, rouler dans la profondeur, c'était Adèle pour rouler jusqu'aux infos de 9h. Puis ce sera l'entrée à l'EMS, c'est le thème de notre guichet. On attend vos questions sur ce sujet au 0800 108 208 ou par message vocal ou écrit au 076 206 12 12. Vous pouvez aussi nous envoyer un email à onenparle@rts.ch.
L'heure avec RTS Première.
Vous êtes entre de bonnes mains. RTS Première vous tient informé de tout et à toute heure, et c'est le cas tout de suite puisqu'il est 9h.